Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Radio Campus Grenoble, 90.8. Paul Tillier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous, chers auditeurs, pour ce premier numéro de Microcité, édition 2019-2020. Si vous ne connaissez pas encore le concept, eh bien Microcité, c'est une émission d'actualité et de débat présentée par les étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. On a une petite pensée pour nos prédécesseurs qui nous ont laissé les clés du camion et que vous pouvez désormais entendre dans toutes les meilleures radios de France. Nous serons ensemble les vendredis de 16h30 à 17h. Allez, on attaque avec le sommaire de cette première émission. Le projet de loi bioéthique, et plus précisément la PMA, la procréation médicalement assistée, les députés en parlent en ce moment à l'Assemblée nationale, et c'est le thème de notre dossier avec Claire Guédon qui s'est intéressée à ce sujet. Pour notre long format, Benoît Almeyra s'est allé à la gare de Grenoble, il a rencontré des migrants et il leur a donné la parole. Rendez-vous en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 et Microcité saison 2019-2020, c'est parti.
Microcité jusqu'à 17h.
Il est 16h31 tout juste et à côté de moi, Antoine Noistron pour le journal avec des informations toutes fraîches. Bonjour Antoine.
Bonjour Paul, bonjour à tous. Pas encore d'hypothèse prédictive au lendemain de la mort de 4 policiers au sein de la préfecture de police de Paris. La femme de l'auteur des faits est toujours en garde à vue. Cet après-midi s'ouvre à Paris la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort se retrouvent pour trouver des solutions pour réduire les gaz à effet de serre. En Irak, les manifestations tournent au drame. Ce matin, la police a tiré sur les manifestants. 34 personnes sont mortes depuis 4 jours. Et à la fin de ce journal, on vous fera découvrir un sport encore méconnu, le roller derby. Un lycéen poignardé ce matin au Lila en région parisienne pendant un cours d'EPS. Il est décédé quelque temps après des suites de ses blessures malgré l'intervention des secours. 3 mineurs ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des coups de couteau. Le préfet de police n'exclut aucune hypothèse au lendemain de la mort de 4 policiers au sein de l'institution. Ils ont été tués hier par un homme travaillant sur place depuis 16 ans. L'auteur présumé avait été abattu par un autre policier. La femme de l'assaillant a révélé en garde à vue avoir vu son ami être agité la veille de l'attaque. Ce matin, Christophe Castaner s'est rendu au chevet d'une policière hospitalisée et un moment de recueillement a eu lieu ce midi à la préfecture de police. Être né à l'étranger par GPA n'empêche pas la filiation avec la mère d'intention. C'est ce qu'a arrêté la cour de cassation cet après-midi. Elle examinait le pourvoi d'une famille dont les deux filles jumelles sont nées aux États-Unis d'une mère porteuse. It's All Airways, c'est fini pour de bon. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé cet après-midi la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne. La seule offre de reprise en lice a été rejetée. Et c'est le jour J pour 150 citoyens tirés au sort. Ils participent depuis 2h30 à la Convention citoyenne pour le climat à Paris, une conférence à l'initiative d'Emmanuel Macron après le grand débat national. Pendant 6 week-ends, ils vont proposer des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Mais concrètement, Margot Siffert, comment vont s'organiser ces réunions?
Alors c'est une France en petit qu'a souhaité le gouvernement. Les 150 citoyens ont pris leur quartier dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. Répartis en groupes de travail, ils vont plancher sur des thèmes comme les modes de déplacement, le logement ou encore la façon de consommer. Et ils ne pourront pas se contenter de simples propositions. Au contraire, ils devront pré-rédiger des textes de loi avec l'aide de juristes. Pourtant, parmi ces Français, certains l'avouent, ils ne connaissent rien aux questions écologiques.
Mais alors, n'est-ce pas un simple coup de com'?
On peut effectivement le penser, Antoine, car pour être au niveau, ces Français vont devoir auditionner des experts, tant sur la biodiversité que sur le prix de l'essence ou encore la rénovation thermique. Et certains émettent d'ores et déjà des réserves, c'est notamment le cas du président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Il parle d'une démagogie démocratique surréaliste. Pour lui, cela fait déjà des décennies que l'on évoque des pistes pour réduire les émissions de CO2. Et cet avis est d'ailleurs partagé par un grand nombre d'associations.
Et les conclusions seront transmises au gouvernement et deviendront des lois, des décrets ou des référendums selon les cas. Le vice-président du Conseil d'État a été mis en examen fin septembre pour complicité de harcèlement moral, on l'a appris aujourd'hui. Les faits concernent la période où Bruno Lasserre dirigeait l'autorité de la concurrence. Un de ses subordonnés s'était alors suicidé en 2014. Un management trop dur d'un de ses bras droits en serait la cause, selon la justice.
Il est 16h34 sur Radio Campus Grenoble et le port du masque est interdit à Hong Kong, Antoine.
Tout à fait, le gouvernement ce matin de la région semi-autonome a invoqué une ancienne loi d'urgence pour prendre cette décision. Les manifestants ont en effet l'habitude de se masquer le visage pour cacher leur identité et éviter des poursuites judiciaires. En réaction, des milliers de personnes masquées ont bloqué une rue du centre-ville ce matin. En Irak, les forces de sécurité ont tiré sur la foule ce matin à Bagdad. Depuis mardi, 34 personnes sont mortes, dont 4 policiers, lors de manifestations contre le gouvernement. Le mouvement né sur les réseaux sociaux réclame des emplois et le départ des dirigeants. Internet est coupé dans la majorité du pays.
Des œuvres d'un maître de la peinture à Grenoble, Antoine.
L'exposition événement Picasso au cœur des ténèbres, qui retrace l'œuvre du peintre pendant la Seconde Guerre mondiale, ouvre au musée de Grenoble demain. C'est la première exposition du peintre espagnol dans la cité des Alpes. Un événement exceptionnel qui pourtant s'imposait pour le directeur du musée, Gito Sato.
Le musée de Grenoble a été le premier musée français à accueillir dans ses collections une œuvre de Picasso, et cela en 1921. Voilà, il y avait, je dirais, presque une nécessité que le musée de Grenoble célèbre Picasso, en dehors du fait que c'est un des plus grands génies de la peinture du XXe siècle. Et c'est vrai que, vu le nombre d'expositions Picasso qui ont été présentées ces dernières années en France, il était pour nous compliqué de trouver quelque chose qui n'est pas encore été fait. Donc, c'est, je crois, une des qualités aussi de ce projet à Grenoble, c'est que c'est une première aussi, parce que le sujet Picasso, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'avait jamais été traité en France. Et je dirais que c'est même une première tout court de le traiter véritablement de 1939 à 1945.
Et c'est une exposition à découvrir jusqu'au 5 janvier. En rugby, l'Afrique du Sud s'est imposée ce midi contre l'Italie dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Le 15 sud-africain l'a emporté largement 49-3 pour reprendre la tête du groupe suite de la compétition demain. Ce soir, c'est le début de la 9e journée de Ligue 1 de football. Amiens reçoit Marseille. Aujourd'hui, le club de Saint-Etienne a suspendu son entraîneur Ghislain Printemps à cause de mauvais résultats. Il devrait être remplacé par Claude Puel 2 jours avant de recevoir Lyon pour le derby. Et pour finir ce journal, on vous invite à découvrir un sport encore inconnu. Patin à roulettes, protège-dents, casque et paillettes, voilà la tenue parfaite des joueuses de roller derby. Pour mieux comprendre ce jeune sport méconnu, Julia Beaufils a assisté la semaine dernière à un match. Il opposait Léopard Avengers de Caen aux Cannibales Marmottes grenobloises.
Lancées à pleine vitesse sur des patins aux 4 roues non alignées, 10 joueuses s'affrontent. Elles tournent sur une piste ovale appelée le track. Le principe du jeu, marquer des points. Mais les règles sont nombreuses et complexes, alors entre 2 encouragements d'un public survolté, Leslie, supportrice des Marmottes, nous explique les bases.
Donc chaque équipe va aligner 5 joueuses, 4 bloqueuses et 1 jameuse. Les 4 bloqueuses partent devant la ligne de départ et les 2 jameuses partent derrière la ligne de départ. La jameuse a pour but de dépasser les défenseuses adverses en marquant 1 point à chaque défenseuse passée.
Le match se découpe en 2 périodes de 30 minutes, elles-mêmes coupées en sessions appelées jam. Pour que l'attaquante dépasse la défense adverse, on pousse, on tire ou on percute. Cécile, réfractaire au départ, est devenue une cannibale marmotte il y a 1 an.
Au début, je disais non, j'en ferai pas, c'est trop violent, j'aime pas, je suis une chochotte, j'ai pas envie d'avoir des bleus. Et en fait, l'ambiance est tellement bonne que je me suis laissée emporter dans le truc, quoi.
Le roller derby existe depuis les années 30, mais la pratique ne s'est intensifiée qu'à partir des années 2000. Pour Leslie, joueuse dans l'équipe stéphanoise, jamais c'est un sport, mais surtout des valeurs.
La solidarité, le respect des règles et des personnes, des arbitres, chaque personne peut être qui elle veut. Sur un match, on peut être une femme, on peut être un homme ou on peut s'inscrire en no gender.
Une inclusion qui fait du roller derby un espace de dépassement de soi et de respect des différences.
Le club des cannibales marmottes grenobloises compte aujourd'hui 100 d'adhérentes.
Eh bien écoutez Antoine, on espère vous voir très vite sur des rollers, mais ne tombez pas, vous devez revenir en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h38, passé de quelques secondes sur Radio Campus Grenoble. Dans quelques instants, notre dossier sur la PMA. Mais avant ça, on se détend un peu et on écoute la soul de l'artiste anglaise Mahalia.
Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. Till you're gonna call my phone, yeah. You'll be like, babe, come over. I know how this goes, yeah. Talk about Uniqlo, yeah. Too many missed calls, too many texts. Damn, I wish I missed my ex. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah.
I've been waiting for this call. Baby, I don't wanna do this all today. Don't you know you're so predictable? I can tell you everything you're gonna say. Like, hey or hi, how you been lately?
Fine.
I've been missing you, baby.
Sorry.
I don't know if I can take this again.
Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone.
trouble. So why you trying to test me on my holiday? Boy, you must be living in a bubble. Oh, go with the wind, fly, fly away. No, hey, oh,
hi.
How you been lately?
Fine.
I've been missing you, baby.
Sorry.
I don't know if I can take this again. No.
Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah.
My phone all night. This ain't love, you're troubling me. Always wishing you were still mine. I'm the only one you wanted, but I can't follow where your heart is. Cool it till the morning. Na 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 na. Texting, 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 troubling me all over my phone all night. This ain't love, you're troubling me. Always wishing you were still mine. Come follow where your heart is.
Call it till the morning. Na, 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 na.
Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. You'll be like, babe, come over. I know how this goes, yeah. Talk about unicorns, yeah. Too many missed calls, too many texts. Damn, I wish I missed my ex.
My ex. 16h42 sur Radio Campus Grenoble, vous venez d'écouter I Wish I Missed My Ex de Mahalia. Et qu'est-ce que ça fait du bien, allez, on enchaîne.
Le dossier.
La PMA, trois lettres qui font beaucoup parler d'elle. PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. L'article de loi qui étend la PMA à toutes les femmes, ça y est, c'est bon. Il a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il doit encore passer devant le Sénat en octobre pour être adopté. Mais ce n'est pas le seul sujet qui fait débat. La PMA s'inscrit dans le cadre du projet de loi bioéthique et chacune des lignes de ce texte fait réagir. Claire Guédon, vous vous êtes penchée sur ce dossier.
Oui, cette loi, elle contient d'autres points importants. Il y a l'accès à l'identité du donneur pour les enfants nés de PMA, l'autoconservation des gamètes, la reconnaissance de filiation, mais tout ça, on va y revenir plus tard en détail. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Camille Galliard-Minier, ancienne avocate et suppléante du député de l'Isère En Marche, Olivier Véran. Bonjour, bienvenue et merci de vous être déplacée.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Pour mettre les choses au clair, quand on parle de PMA pour toutes, ça veut dire que les couples lesbiens et les femmes seules auront accès aux méthodes d'aide à la procréation. Donc il y a la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle. Les couples hétérosexuels, eux, ils y ont déjà droit. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ?
Vous avez tout compris.
Ok, eh bien c'est super. Donc maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va écouter l'avis des Grenoblois sur l'extension de la PMA à toutes les femmes. C'est Margot Siffert qui est allée prendre la température.
Je suis ravie pour l'extension. J'habitais au Québec et ça existait déjà quand j'habitais au Québec. Et je trouvais qu'on était très en retard. On arrive à quelque chose, enfin, en termes de liberté de la femme et de ses choix. Et je trouve ça génial.
On n'a pas à avoir le droit à un enfant. Ça me pose des problèmes pour la société qui va venir. Et je ne me sens pas tout à fait prête à vivre. Enfin, je ne le vivrai pas, moi. Mais je pense que je n'aimerais pas vivre une société de ce style.
Je trouve que ça serait bien qu'on s'interroge dans notre société sur la notion de limite. À l'aide de la technologie, on va de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Et je pense que ça serait bien de revenir à une société où tous les besoins et les désirs peuvent pas être assouvis. Parfois, quand la nature dit qu'on ne peut pas, on ne devrait pas forcément essayer de la forcer.
Si les mères sont honnêtes et qu'elles expliquent aux enfants comment les choses sont arrivées, je pense que les choses peuvent se faire très bien. Après, il faut que le monde évolue, il faut que les esprits évoluent.
Alors, on vient de l'entendre et il y a plusieurs choses intéressantes dans ces réactions. On a du soulagement, on entend le terme « droit à l'enfant », « évolution de la société ». Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Il y a un monsieur qui dit qu'il ne faut pas forcer la nature et assouvir tous nos désirs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce qu'on est sur du désir ou plutôt sur du droit ?
Je dirais qu'on est sur les deux, mais je ne crois pas que ce soit véritablement un problème dans cette loi. Avec cette loi, on répond d'abord à un engagement de campagne du président Emmanuel Macron qui avait fait effectivement de ce principe un de ses engagements, c'est-à-dire donner la possibilité à deux femmes en couple ou à une femme célibataire de pouvoir avoir un enfant par la procréation médicalement assistée. effectivement, ça va être un droit pour ces femmes de pouvoir, en fait, concrétiser un projet parental qu'elles concrétisent d'ores et déjà grâce à des procédures qu'elles ouvrent à l'étranger. Là, ça leur a donné la possibilité de pouvoir accéder à ce projet parental, mais sur le territoire français, et de mener ce projet parental à bout.
En fait, on est sur une ouverture, on est sur plus d'égalité pour les couples lesbiens et pour les femmes seules qui se retrouvent au même niveau que les couples hétérosexuels.
Exactement, on a une égalité des couples composés de deux femmes ou de deux hommes, enfin de deux femmes, pardon, ou d'un homme et d'une femme. Et puis pour les femmes célibataires, on avait déjà l'adoption par une personne seule, et on aura la possibilité également pour ces femmes seules de pouvoir accéder à la maternité grâce à la procréation médicalement assistée.
Alors du coup, je vous ai entendu parler des deux hommes. Comment ça se passe quand il y a deux hommes concernant la GPA, si je ne me trompe pas?
Alors effectivement, la GPA aujourd'hui, de toute façon, est interdite sur le territoire français. Donc la question aujourd'hui ne se pose pas, puisque la situation de deux hommes et de deux femmes ne sont pas en situation d'égalité. On a entendu parler de certaines personnes qui sont des détracteurs à cette loi, de parler de discrimination qu'il y aurait entre les couples de deux hommes et les couples de deux femmes. J'ai moi-même fait un lapsus. Mais la situation n'est pas en situation d'égalité, puisque les hommes ne peuvent pas procréer, en tout cas aujourd'hui. Donc dès lors qu'il n'y a pas de situation d'égalité, il n'y a pas de situation de discrimination, et la GPA n'est pas dans la loi, et elle n'est pas prévue devant le Parlement.
C'est pas du tout en question pour l'instant. Vous parliez tout à l'heure des femmes, des couples de femmes et des femmes seules qui vont à l'étranger pour faire des PMA. Est-ce qu'on sait combien elles sont à partir faire ça ?
Aujourd'hui, on sait qu'elles sont très nombreuses et qu'il y a de multiples situations de fait où ces personnes vont à l'étranger, ce qui donc crée une discrimination, puisqu'il faut avoir à ce moment-là les moyens, la possibilité d'aller à l'étranger, la possibilité de financer ce mode de procréation, ce qui n'est absolument pas satisfaisant. C'est aujourd'hui une demande sociétale d'aboutir en France à la possibilité d'avoir accès à la PMA lorsqu'on est deux femmes et qu'on est en couple et qu'on a envie d'avoir un projet parental.
Et vous parlez du côté financier, les conditions de remboursement par la Sécurité sociale, ce seront les mêmes pour les couples hétérosexuels, les couples lesbiens et les femmes seules ?
Ce seront exactement les mêmes pour tous, et pour toutes plutôt. C'était effectivement dans la loi, ça a été défendu devant l'Assemblée, ça a été contesté par les personnes qui n'étaient pas d'accord, mais c'est un principe de base pour que justement ce principe d'égalité soit égalité pour toutes, et que dès lors qu'on ouvre un droit, on puisse l'exercer, quelles que soient ses conditions et ses qualités pécuniaires.
Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur l'avis de l'Académie nationale des médecins qui a été donné la semaine dernière. Donc l'Académie a émis des réserves. Elle estime que la disparition de la figure du père pourrait avoir un impact sur le bon développement et l'épanouissement des enfants. Donc ce sont leurs mots. On sait qu'il y a des études qui ont été faites sur les enfants de couples homosexuels ou de femmes seules. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, je crois que ce n'est pas une inquiétude qui doit tenir. Il y a de multiples études qui montrent que des enfants qui sont éduqués par deux personnes, par deux femmes, se développent tout à fait normalement. Enfin, même dire ça, ça paraît extraordinaire de devoir l'énoncer. Et puis surtout, dire ça, ça jette l'opprobre sur toutes les familles monoparentales, et de considérer que parce qu'on est une famille monoparentale et qu'on a un enfant, l'enfant part forcément dans la vie de façon plus difficile que les autres. On le sait, ça n'est pas vrai. Les images paternelles, ou en tout cas les images masculines, on les trouve autre part dans la société, on les trouve dans sa famille, on les trouve à l'école, on les trouve dans les amis, et on sait que ça participe après la construction générale de l'enfant. Un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin d'éducation, il a besoin des personnes qui l'aident à grandir, et là, que ce soit un homme et une femme, deux femmes ou une femme seule, on sait que ses capacités, elles sont attachées à la personne et non pas forcément à l'image du père.
Oui, effectivement, on sait déjà qu'il y a des mères célibataires, il y a des pères célibataires, il y a 200 000 enfants qui sont élevés par des couples du même sexe en France, pardon. Donc finalement, les situations sont déjà présentes. En fait, on régularise des situations familiales qui existent déjà.
Tout à fait, ce sont des situations qu'on dit de fait, qui vont pouvoir finalement s'appliquer en France. On parlait d'une zone grise, si vous voulez, où on sait que les femmes de même sexe peuvent avoir un enfant par PMA, mais en étant obligées d'aller à l'étranger aujourd'hui, ce droit, il va être ouvert en France et à toutes.
C'est la reconnaissance d'une réalité.
D'une réalité de terrain, exactement.
Pour ce qui est de la mise en place concrète de cette extension, il y a la question du stock de sperme qui se pose. On sait déjà qu'il y a un léger déficit en France. On a 2200 demandes pour 1700 bénéficiaires. Là-dessus, j'aimerais qu'on écoute Michael Greenberg. Il est gynécologue obstétricien, spécialiste de la reproduction à l'hôpital Béclair dans les Hauts-de-Seine. Il s'est exprimé la semaine dernière chez nos confrères de RTL.
On va pas avoir beaucoup de facilité à répondre à toutes les demandes. On va continuer à répondre aux demandes sans aucun souci des couples hétérosexuels. Mais c'est vrai que pour le don de sperme, puisque le fait d'avoir besoin, quand on est en couple homosexuel, en couple de femmes ou pour les femmes célibataires, il faudra faire appel à un donneur de sperme. Comme les couples hétérosexuels dont le mari n'est pas en capacité de produire des spermatozoïdes. Donc c'est vrai que ça va rallonger la file d'attente dans ce contexte-là. On est déjà, selon les terminologies, à flux tendu ou en pénurie, je sais pas où est-ce qu'il faut mettre le curseur pour parler de l'un ou de l'autre, mais c'est déjà pas simple. Le fait de rallonger la file d'attente va faire que ça va pas encore simplifier les choses.
Alors est-ce que, comme il le dit, ça va s'aggraver? Est-ce qu'il va y avoir une explosion de la demande?
Alors, il n'y aura pas une explosion de demande, il y aura certainement vu qu'il y a une ouverture d'un droit, il y aura la possibilité de faire ces demandes, donc les demandes vont certainement augmenter. De là à parler d'explosion, je crois que c'est caricaturer la situation. Après, sur le nombre de donneurs, aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'associer à cette loi le lancement d'une campagne, justement, qui va venir informer peut-être plus largement la population, effectivement des hommes, sur le don de sperme, sur les conditions dans lesquelles on peut donner, sur les avantages qu'il y a à le faire, et sur le don altruiste que ça peut engendrer, parce qu'il faut bien rappeler que le don restera évidemment parfaitement gratuit. Donc il y a certainement une situation de tension qui va y avoir, mais ce nombre de donneurs, on l'a vu à l'étranger, c'est-à-dire que lorsqu'il a été ouvert, et lorsqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais même avec une levée d'anonymat, ben finalement le nombre de donneurs, même s'il a tendance un tout petit peu à diminuer au début, puisqu'il y a un changement des conditions, ensuite augmente, et la situation, je suis sûr, se stabilisera sans souci.
Justement, en parlant de dons, d'anonymat, il y a l'Assemblée nationale qui a voté l'accès à l'identité des donneurs pour les enfants nés de PMA. Donc ça veut dire qu'à leur majorité, les enfants qui sont nés de procréation médicalement assistée pourront avoir accès à des informations comme l'âge, les caractéristiques physiques, peut-être aussi le dossier médical. Comment ça va se passer ?
Alors effectivement, aujourd'hui, là, c'est un changement radical avec le droit actuel, puisqu'aujourd'hui, le don est gratuit et parfaitement anonyme. Donc la personne qui vient donner donne et ne laisse aucun élément. Et c'est un don qui est définitivement anonyme. Là, la loi ouvre un droit aux enfants qui vont être nés de PMA, puisqu'ils auront la possibilité, à leur majorité, de demander soit des éléments non identifiants, vous l'avez rappelé, l'âge, etc. Et puis surtout, l'identité du donneur. Donc le donneur devra, au moment où il fait son don, accepter la possibilité éventuellement que son identité soit donnée au moment de la majorité de l'enfant, si l'enfant le demande, ce qui ne sera certainement pas systématique.
D'accord, donc en fait ça se passe au moment du don, enfin... Alors, excusez-moi. Non, je voudrais rappeler que c'est bien pour les couples hétérosexuels, les couples lesbiens et les femmes seules.
Tout à fait. Ça va concerner toutes les règles de la PMA, quelles que soient les personnes qui en bénéficient, que ce soit couple effectivement homme-femme, couple de deux femmes ou femmes célibataires.
Ça, c'était une réponse aussi des enfants nés de PMA qui aiment en savoir plus sur d'où ils viennent.
Voilà, il faut dire que ce projet de loi de bioéthique vraiment a fait l'objet d'un travail très en profondeur, parce qu'on vient réviser les lois bioéthiques, et donc il y a eu de multiples auditions, des centaines d'auditions, et parmi celles-là, effectivement, des enfants, et il a fallu faire des arbitrages, et il a été considéré que là, il y avait une demande sociétale importante. On sait que tous les enfants nés par PMA ne demandent pas nécessairement à avoir accès à leurs origines, mais certains le font, et le gouvernement, et maintenant le législateur, a considéré que c'était un droit auquel il fallait faire droit.
D'accord. Et pour ce qui est des stocks actuels, est-ce que si la loi passe, les stocks seront détruits? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer avec?
Alors ça aussi, ça a été anticipé, ça a été évidemment discuté. En fait, le stock, comme on dit actuel, va continuer à être utilisé, puisque pendant un temps, il va falloir reconstituer entre guillemets un stock avec des dons avec le nouveau régime. C'est-à-dire que ce que le législateur a prévu, c'est qu'il n'y ait pas de cohabitation de deux sortes de dons. Les dons qui permettent la levée de l'anonymat et les autres. Donc pendant un temps, on va d'abord utiliser le stock actuel, et pendant le même temps, on va constituer un stock avec des spermatozoïdes avec le nouveau régime. Et une fois que ce stock sera suffisant, effectivement, à ce moment-là, eh bien les dons anciens régimes, entre guillemets, feront l'objet d'une destruction, mais certainement que le nombre sera tout à fait limité.
Écoutez, je suis désolé, je dois vous couper, on a encore plein de choses à dire, malheureusement, on est pressé par le temps. Merci à vous, Camille Gallière-Migné, d'être venue dans nos studios. On le rappelle, vous êtes suppléante du député En Marche Olivier Véran. Il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble. Restez avec nous.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Allez, maintenant, c'est l'heure du long format. On vous le disait en début d'émission, on se rend à la gare de Grenoble. D'habitude, la gare, c'est un lieu où on ne reste pas longtemps, juste le temps d'une correspondance. Pourtant, certaines personnes y passent leur vie. Ces personnes, ce sont les demandeurs d'asile. Pour la plupart, ils viennent d'Afrique de l'Ouest. Ce sont les invisibles de la gare et Benoît Almeiras est parti à leur rencontre.
Ces demandeurs d'asile, ils vivent presque cachés. Ils squattent un coin de table dans le hall de la gare, près des portes, en face du tabac presse. Ils viennent charger leur téléphone, se connecter à Internet pour donner des nouvelles à leurs proches. Ce jour-là, ils sont une dizaine, tous des hommes, âgés de 20 à 40 ans. Ils viennent du Nigeria, de Guinée, du Burkina Faso. Ils ont fui la pauvreté, l'insécurité ou les persécutions. Moussa a l'œil vissé sur son écran. Lui, il a quitté le Mali il y a 2 ans en raison de son homosexualité. Tendez l'oreille.
J'ai sorti avec mon petit ami, ma femme m'a découverte et m'a dénoncé. Après, il m'a chassé à la maison. Des quartiers, ils ont commencé de me menacer. J'ai obligé de me quitter, sinon il m'a dit que s'il me trouve, il va me tuer.
Après leur départ, ils parcourent des milliers de kilomètres. Ils traversent l'Algérie, la Libye, l'Italie. Leur voyage dure des mois, voire des années. À leur arrivée en France, ils déposent une demande d'asile. En attendant qu'elle aboutisse, ils ne peuvent pas travailler. C'est le cas de Diop, 25 ans, originaire du Sénégal et un accent à couper au couteau.
Je faisais de la mécanique chez moi. Maintenant, je ne fais rien. Toute la journée, je ne fais rien. Je vais seulement manger, dormir, me promener toute la journée. On fait seulement ça.
C'est ça seulement en fait.
Alors pour survivre, il dépend d'aides publiques comme l'allocation pour demandeurs d'asile, une quinzaine d'euros par jour. Des associations essaient de leur trouver un toit. Les places manquent. Certains doivent dormir dans la rue. C'est le cas de Lassine. Ce jeune Malien n'a plus d'argent depuis son arrivée à Grenoble il y a 2 mois. Il galère.
Je dors dehors. Bon, c'est pas facile pour moi. Durant toute ma vie, j'ai jamais dormi dehors. Tu n'as pas quelqu'un ici à qui tu peux échanger. Tu es toujours seul ici. C'est pas facile. Donc ma famille, mes parents, mes amis, le Mali me manque beaucoup vraiment.
Les associations d'aide aux migrants militent pour que les demandeurs d'asile puissent au moins travailler. Monique Vuaya coordonne le réseau Migrants en Isère.
Dès qu'ils ont un droit de travail, ils s'installent, et ils ont un logement, ils vivent en famille. Et en plus, ils paient des cotisations et des impôts. Que demander de mieux? On nous dit on reçoit toute la misère du monde. Non. 128 000 demandeurs d'asile autorisés à rester en France chaque année, c'est 0,5% de la population. On n'est pas submergé par ces arrivées. Donc cette politique est imbécile. On ne peut pas dire autre chose. Inhumaine et imbécile.
En 2018, la préfecture de l'Isère a reçu plus de 2000 premières demandes d'asile. C'est 6 fois plus qu'il y a 10 ans.
En début de semaine prochaine à l'Assemblée nationale, le gouvernement fera une déclaration sur la politique migratoire de la France qui sera suivie d'un débat parlementaire.
Microcité jusqu'à 17h.
Allez, il nous reste 2 petites minutes pour le rappel des titres avec vous, Antoine Lastron.
24 heures après le meurtre de 4 policiers à la préfecture de police de Paris, aucune piste n'est privilégiée. Placée en garde à vue, la femme de l'auteur présumé des faits a révélé l'avoir trouvé agité la veille des faits. Selon elle, il avait aussi des problèmes avec sa hiérarchie. Un lycéen poignardé ce matin en région parisienne pendant un cours de sport. Il est décédé des suites de ses blessures. 3 mineurs soupçonnés d'être l'auteur des coups de couteau ont été placés en garde à vue. 150 citoyens tirés au sort réunis pour parler écologie. C'est le lancement aujourd'hui de la Convention citoyenne pour le climat à Paris. Pendant 6 week-ends, ils vont réfléchir à des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Ce matin, les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants en Irak, provoquant de nouveaux décès. Depuis mardi, 34 personnes sont mortes en marge de manifestations contre les dirigeants. Et c'est un nouvel entraîneur pour Saint-Etienne. Le club de football a annoncé la suspension de Ghislain Printemps. Il est remplacé par Claude Puel à 2 jours du derby contre Lyon.
Et il est presque 17h et c'est déjà l'heure de se quitter. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous, c'était un vrai plaisir. Si vous voulez réécouter notre émission en podcast, ça se passe sur le site de Radio Campus Grenoble. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux @microcité. À la technique aujourd'hui, c'était Louis Oscovin et il sera avec nous toute l'année. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, prenez soin de vous.